Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comme toutes les familles politiques en France en ce moment, les partis de gauche font campagne pour les élections européennes avec un enjeu crucial, une course dans la course. Quel parti sera en tête de la gauche le 9 juin prochain? Et quelles conséquences sur les dynamiques d'union ou de désunion à venir dans une famille politique jusque-là dominée par la France insoumise, forte des 21,9% de Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle? Et au-delà de ces enjeux stratégiques pour 2027, quelles propositions les têtes de liste font-elles pour l'Europe? Pour le savoir, je reçois Julie Caria, journaliste en charge du suivi des gauches au Monde. Bonjour Julie.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Julie, on va s'intéresser aujourd'hui à cette grande famille politique qui n'arrive plus vraiment à s'entendre, la gauche. Essayer de comprendre ce qui distingue les partis les uns des autres dans leurs propositions pour ces européennes, mais aussi comment ce scrutin aura des conséquences sur la suite du calendrier électoral d'ici à 2027. D'abord, intéressons-nous donc au programme des candidats, en démarrant peut-être par Raphaël Glucksmann pour la liste Parti Socialiste Place Publique. Qu'est-ce qu'il incarne et qu'est-ce qu'il propose aux électeurs de gauche?
Alors, Raphaël Glucksmann, il incarne une ligne où il espère en tout cas perturber le duel entre Renaissance et le Rassemblement National, en incarnant d'abord un engagement au niveau international qui est ancien chez lui, notamment sur la démocratie et contre Vladimir Poutine. Donc c'est quelque chose qui résonne assez fort dans cette élection, vu la guerre en Ukraine. Et donc il mise beaucoup là-dessus pour renforcer en fait un positionnement qui est très fidèle à l'identité, disons, traditionnelle du Parti socialiste, de défense de la démocratie, un côté très pro-européen, construction européenne, voire même de la création d'une défense européenne. Ensuite, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il prend quand même une forme de distance par rapport à la social-démocratie telle qu'elle a pu être incarnée par François Hollande, en ayant quand même un discours qui, s'il n'est pas complètement aussi offensif que celui de la France insoumise, qui appelle à une sorte de changement par rapport au dogme libéral au niveau européen.
Et il essaye d'incarner, fort de sa position dans les sondages, une forme de vote utile dans ces européennes.
Oui, alors les élections européennes sont peut-être des élections où on peut voter de manière peut-être plus sincère que lors d'une présidentielle. Il n'y a qu'un seul tour, c'est à la proportionnelle. Mais malgré tout, Raphaël Glucksmann essaye de se positionner en vote utile à gauche et aussi de ramener à lui, disons, des électeurs qui ont parfois fait des choix, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 sans être d'accord avec tout ce qu'il disait. Il a ce discours sur l'idée qu'il pourrait réconcilier un électorat social-démocrate avec lui-même, qui a parfois voté Macron, parfois Mélenchon.
Et il y a une autre dimension de son programme, c'est le plan environnemental. Il fait beaucoup de propositions sur le sujet, c'est ça?
Oui, il appelle à une révolution écologique européenne, un grand plan de rénovation énergétique dans toute l'Europe, en commençant par les écoles. Et il lie la question écologique avec la question géopolitique en disant que finalement, l'indépendance énergétique de l'Europe est aussi une indépendance géopolitique vis-à-vis de la Russie. Donc il verdit son discours tout en l'inscrivant dans une dimension géopolitique.
Il est au croisement de toutes les problématiques que nous aborderons, de la sécurité à la justice sociale, en passant par la santé ou la géopolitique. Au cœur de tout cela, il y a l'émergence de cette puissance écologique européenne.
Et on imagine bien, Julie, que ce n'est pas innocent de sa part de verdir ce discours. Ça lui permet d'aller grappiller des voix aussi du côté des écologistes. Alors, justement, parlons-en de cette liste Europe Écologie Les Verts avec Marie Toussaint en tête de liste. Déjà, qui est-elle exactement? Quel est son profil?
Donc c'est une députée européenne sortante. Elle est juriste en droit international de l'environnement, de profession. Et c'est elle qui avait mené le combat de l'affaire du siècle, qui avait amené à condamner la France pour inaction climatique. Malgré cela, elle se trouve dans un contexte qui est plus difficile pour les écologistes qu'en 2019, où Yannick Jadot avait fait 13%, puisque l'écologie se retrouve instrumentalisée, notamment par la droite et l'extrême droite, comme un enjeu qui est punitif pour de nombreux Européens. Et donc les écologistes n'ont plus le vent en poupe, et Marie Toussaint fait peut-être un peu les frais de ce changement de contexte. Donc c'est un moment difficile pour l'écologie politique.
Oui, et la crise des agriculteurs a été l'occasion, aussi bien chez les macronistes qu'à l'extrême droite, on en a parlé dans l'heure du monde d'ailleurs, de développer ce discours comme quoi l'écologie peut être punitive. Et alors, dans ce contexte difficile, donc, qu'est-ce que propose Marie Toussaint ?
Alors, dans la mesure où les écologistes se disent, en fait, finalement, il n'y a plus que nous à parler vraiment d'écologie, elle fait une campagne qui est quand même assez environnementaliste. Donc, elle met vraiment l'accent sur le sujet environnemental et sa mesure phare, c'est une nationalisation partielle, mais au niveau européen, des grands groupes pétroliers européens grâce à des fonds européens. Donc, l'idée serait de racheter 51% des parts de Total pour forcer ces entreprises à adopter une trajectoire bas carbone et se convertir dans la bifurcation écologique.
Et est-ce qu'elle convainc cette mesure à gauche ?
Ils savent déjà qu'on va leur faire des procès en utopisme et ils disent « mais dans 10 ans, tout le monde verra bien que c'est une mesure d'avenir ». Mais ça traduit bien la difficulté qu'ils ont à exposer des mesures et à les faire passer dans le débat public. Ils misent sur quelque chose de long terme qui n'est pas toujours forcément facile à faire entendre le jour J au moment d'une élection.
Et sur le côté un peu plus social, quel est son discours ?
Alors les Verts, même s'ils font une campagne très environnementaliste, ne veulent pas être accusés de délaisser complètement le terrain social. Et donc ils en ont parlé, notamment au début de cette campagne où Marie Toussaint a dénoncé une forme de pauvrophobie d'État en France notamment. Mais c'est un concept qui est un peu éloigné du vocabulaire marxiste qui est en cours à gauche, les insoumis et les communistes, et qui a pu surprendre, voire faire sourire ses concurrents dans cette élection.
La pauvrophobie, tout à fait. La discrimination socio-économique, c'est-à-dire qu'on fait la guerre aux pauvres avec une espèce de traque qui vise à traquer les pauvres partout et à les délester de la moindre allocation.
Ok Julie, venons-en maintenant à la liste insoumise de Manon Aubry. Alors, comment est-ce qu'elle se positionne face aux socialistes et aux écologistes ?
Alors, Manon Aubry, son slogan, c'est « Donnez-nous la force de tout changer ». Donc ça dit un peu la tonalité du programme européen de l'EFI, qui est un programme de combat, un programme de rupture par rapport à une Europe qui est vue comme avant tout guidée par une idéologie libérale. Donc elle met beaucoup l'accent sur le bilan de son groupe parlementaire, qui existe, puisqu'on peut penser notamment au travail de l'eurodéputée Leila Shaibi, qui a œuvré pour l'adoption d'une directive sur les travailleurs des plateformes, pour qu'ils soient considérés comme des salariés. Les Insoumis mettent aussi beaucoup l'accent sur le fait que leur groupe est le seul à ne pas avoir voté les accords de libre-échange type Mercosur entre l'Europe et d'autres zones économiques. Et ils défendent une forme de protectionnisme écologique et social au niveau national et au niveau européen.
Mais son groupe au Parlement européen, il est assez petit. Alors comment est-ce qu'elle peut avoir des victoires quand elle revendique justement de ne pas s'allier aux autres partis de la gauche ?
C'est tout l'enjeu pour eux, c'est de faire valoir une méthode un peu activiste au Parlement européen qui ne s'inscrit pas dans les majorités instituées, avec l'idée d'arracher des victoires quand c'est possible et sinon d'être aussi dans la dénonciation au quotidien.
Donc finalement, Julie, peut-être contrairement à certaines tonalités passées du parti, elle met vraiment en avant son travail au Parlement européen, Manon Aubry.
Oui, tout à fait. C'est peut-être un peu étonnant pour un groupe qui, en 2012, au parti de gauche, il y avait encore un peu cette idée du Frexit qui traînait de manière plus ou moins assumée. En fait, les députés insoumis au Parlement européen, maintenant, ce sont des députés qui travaillent et qui ont un bilan et qui ne sont pas du tout en retrait du travail parlementaire au niveau européen.
Et on finit, Julie, avec le Parti communiste, dont la tête de liste est Léon Desfontaines. Alors, comment est-ce qu'il se situe, lui ?
Alors lui, il défend un projet protectionniste, souverainiste, conforme à ce qu'a pu porter Fabien Roussel pendant la campagne présidentielle. Il fustige aussi, comme les insoumis, l'Europe libérale des sociaux-démocrates. Et il n'hésite pas à critiquer Raphaël Glucksmann en le montrant comme le candidat d'une gauche qui serait élitiste et qui serait déconnectée des territoires. Et il assume aussi de faire campagne sur ce qu'il appelle l'Europe du non, c'est-à-dire tout cet électorat qui a voté non au traité européen.
Et lors de la dernière présidentielle et de ses suites aussi aux législatives avec la NUPES, on se souvient que Fabien Roussel n'était pas tendre avec Jean-Luc Mélenchon et vice-versa. Alors, est-ce que cette animosité, elle persiste encore aujourd'hui ?
Oui, même si sur le fond, ils partagent en fait de nombreuses positions, il y a un enjeu de différenciation pour le Parti communiste qui se poursuit dans cette élection européenne. Donc, Léon Desfontaines et Fabien Roussel n'hésitent pas à pointer les prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur l'international pour s'en distancier. Ce qui pose parfois problème à l'intérieur du Parti communiste puisqu'il y a quand même de nombreux militants qui sont parfois finalement assez alignés avec la France insoumise.
Et justement, Julie, puisque tu parlais à l'instant de questions internationales, il faut dire que dans cette élection, les questions internationales, elles ont pris une place assez centrale sur ce qui distingue, sur ce qui oppose les différentes forces de gauche. D'abord sur l'Ukraine, ça reste encore aujourd'hui un sujet majeur de désaccord, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est pas neuf que les gauches soient divisées sur la question internationale, mais ça se voit particulièrement sur la guerre en Ukraine. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup fait réagir dès l'élection présidentielle de 2022. Hein. Le choix de Jean-Luc Mélenchon de défendre une solution de paix est vu par ses adversaires politiques comme une sorte de compromission vis-à-vis du pouvoir de Vladimir Poutine. Raphaël Glucksmann accuse ainsi Jean-Luc Mélenchon d'être dans une forme de renoncement face au dictateur russe.
Donc ça, c'est pour l'Ukraine. Et il faut dire que la guerre à Gaza à la suite des attaques terroristes du 7 octobre a également pris une place centrale dans les débats.
Tout à fait. Et ce, dès avant le début de la campagne européenne, puisque dès le 7 octobre, en fait, la France insoumise clive beaucoup à gauche en refusant de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Ensuite, pendant la campagne, les insoumis font le choix de placer Rima Hassan, une avocate franco-palestinienne, en 7e position sur leur liste et de faire de la cause palestinienne un engagement très fort de leur campagne, quitte à cliver à gauche dans la mesure où ils ont pu être accusés par leurs adversaires politiques, mais aussi par leurs alliés à gauche, d'avoir une position ambiguë vis-à-vis de l'antisémitisme.
Alors Jean-Luc Mélenchon, il se défend, lui, de tout antisémitisme, hein, et il l'a d'ailleurs répété à la suite de l'interdiction la semaine dernière, par arrêté préfectoral, d'une conférence qu'il avait prévu de faire à l'université de Lille avec l'avocate franco-palestinienne Rima Hassan. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
Nous autres ici, des quartiers populaires, musulmans et autres, nous ne confondons pas un juif et un guerrier assassin israélien. Nous ne confondons pas, nous, vous vous confondez. Nous, nous avons appris que chaque être humain vaut pour lui-même.
Ok Julie, on vient de faire un tour des idées européennes défendues par les différentes familles politiques. Pourtant, ces élections, elles sont également phagocytées par des enjeux nationaux, avec cette course dans la course, hein, qui arrivera en tête à gauche, est-ce que ça peut changer la donne dans la perspective d'autres échéances à venir, notamment la présidentielle. Du côté insoumis, par exemple, on a vu que Jean-Luc Mélenchon cherchait à nationaliser le débat européen, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il fait des élections européennes, des élections qui sont préparatoires pour 2027. C'est ce qu'il a dit lors du premier meeting de lancement de la France insoumise. Parfois, cette tendance à nationaliser le scrutin peut même mettre un peu en difficulté Manon Aubry, dans la mesure où il assume très clairement que cette élection, ce n'est pas l'occasion de faire une lettre au Père Noël à l'Europe ou de dessiner une Europe idéale. Donc, il en fait un enjeu vraiment national.
Et du côté socialiste, derrière le succès dans les enquêtes d'opinion pour l'instant hein, de Raphaël Glucksmann, qui fait la course en tête à gauche, se dessine aussi une lutte interne au sein du Parti socialiste qui a tout à voir avec comment il va se positionner pour 2027, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Les anciens gouvernants du Parti socialiste et François Hollande en tête voient dans la bonne position de Raphaël Glucksmann peut-être une occasion de faire revenir un Parti socialiste plus fidèle à ce qu'ils ont connu eux. Donc ça peut faire surgir une tentation, si Raphaël Glucksmann se retrouvait en tête le soir du 9 juin, de dire que le PS est de nouveau la force centrale à gauche, qui plus est avec un candidat qui est dans les codes de la social-démocratie et qui n'a pas participé à une alliance avec la France insoumise.
Mais j'imagine, Julie, que l'actuel premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui a voulu rompre avec l'héritage de François Hollande, qui s'est allié lors des dernières législatives avec les insoumis au sein de la NUPES, j'imagine qu'il ne sera pas forcément d'accord avec la ligne des hollandistes et que tout ça augure de prochaines luttes internes au PS. Et alors, du côté des écologistes, le parti avait été fondé, je me souviens, en vue des européennes de 2009, donc il a l'Europe dans son ADN et pourtant, il est à la peine. Alors, est-ce que ça peut l'handicaper pour la suite, pour les enjeux nationaux ?
Alors, c'est peut-être parce que le parti a l'Europe dans son ADN qu'ils ont tenu absolument à aller seul à ces élections, malgré la proposition de la France insoumise d'avoir une tête de liste écologiste et une liste qui serait une liste d'union avec la France insoumise. Maintenant qu'ils sont en campagne, chacun dans leur couloir, pour la suite, ELV est le parti qui freine le moins pour l'idée d'une candidature commune pour 2027. Ils n'en font pas un préalable le fait que le candidat soit un candidat écologiste. Et dans cette mesure, ils peuvent être convoités par le PS et par LFI comme une force d'appoint, une force qu'on cherche à s'allier pour essayer de construire une alliance plus large.
Donc si je te suis bien, ils ne sont pas en capacité d'être la force leader à gauche, mais potentiellement faiseur de roi selon s'ils s'allient au Parti Socialiste ou à la France Insoumise.
Oui, mais ça promet d'augurer des choix difficiles pour eux. Soit d'aller du côté de la radicalité avec LFI, soit un rapprochement avec le PS qui était un peu ce qu'ont longtemps fait les Verts. Mais si les Verts sortent affaiblis de cette élection, ça peut être aussi un choix très dangereux qui pourrait potentiellement même faire exploser leur parti.
Ok Julie, on a un peu l'impression, à t'entendre, d'une situation, à nouveau, inextricable. Prenons l'hypothèse que le Parti Socialiste arrive en tête de cette élection, comme le laissent supposer pour l'instant les sondages. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne voudra pas se placer sous leur hégémonie, encore moins retirer sa candidature. Quant à ELV, tu le disais, faire le choix de retirer un candidat en 2027 pour soutenir l'un ou l'autre des candidats, ça peut être très difficile et ça peut créer de profondes divisions au sein de leur parti. Bref, après cette NUPES qui avait donné beaucoup d'espoir aux électeurs de gauche, on voit mal maintenant comment la gauche peut s'unir pour les échéances à venir.
C'est une question d'autant plus difficile que la gauche reste faible. Quand on regarde le total des trois blocs sur la scène politique française, l'extrême droite, Renaissance, le centre et la gauche, le total gauche à cette élection européenne est parfois inférieur aux 30%, tandis que l'extrême droite est parfois supérieure à 35%. Donc la désunion est suicidaire pour la gauche. Et il est indispensable de trouver une solution d'alliance si la gauche veut gagner en 2027.
Et alors, est-ce que malgré tous ces partis qui cherchent à prendre le lead l'un sur l'autre, il y a des initiatives tout de même qui existent pour promouvoir une union à gauche en 2027?
Alors, des initiatives, c'est un grand mot, parce que pour le moment, c'est plutôt des discussions, voire des dîners. C'est quelque chose de très, très informel. Et ces initiatives, si elles voient le jour, elles se heurtent aussi à l'idée que Jean-Luc Mélenchon pourrait de toute façon, lui, être candidat avec la France Insoumise et la machine électorale qu'est la France Insoumise. Donc il y a un enjeu à soit contourner, soit réussir à s'allier avec, mais dans tous les cas, c'est très compliqué.
Et ce que tu dis, ça rappelle un peu la primaire populaire en 2022. Pour rappel, c'était une initiative qui souhaitait contourner les partis et faire émerger une candidature unique à gauche. Sauf que Jean-Luc Mélenchon n'en voulait pas. Il a maintenu sa candidature. Les autres partis ont fait d'ailleurs de même. Et la gagnante de cette primaire, Christiane Taubira, n'a pas réussi à s'imposer et s'est finalement retirée.
Ah, c'est vrai qu'en 2022, cette initiative qui cherchait à contourner les partis et leur dynamique avait complètement fait pchit. Jean-Luc Mélenchon était parti en campagne depuis bien longtemps avant l'élaboration de cette initiative. Et au moment où Christiane Taubira avait été désignée, c'était presque déjà trop tard. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'entre les lignes, les ambitions s'aiguisent. Même si chacun est conscient que ce n'est pas seulement une ambition individuelle qui pourra faire le succès de la gauche, les ambitions s'aiguisent et il y a beaucoup de personnalités politiques qui commencent à penser à 2027. Parmi les insoumis, on peut citer Clémentine Autain ou François Ruffin. Chez les écologistes, Éric Piolle. Et au Parti Socialiste, Olivier Faure ou encore François Hollande. Mais si la logique des partis s'impose à nouveau, c'est l'échec assuré pour la gauche. Et il est difficile de voir aujourd'hui comment une candidature unique pourrait exister.
Merci Julie.
Merci Jean-Guillaume.
Cet épisode a été produit par Cyrielle Bedu et réalisé par Thomas Zeng. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité politique de la gauche, vous pouvez retrouver tous les articles et les analyses de Julie Caria et de sa collègue Sandrine Cassini sur lemonde.fr. Et je vous rappelle qu'en vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr, vous pouvez profiter de notre offre spéciale réservée aux auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.